Regard sur le Moyen-Orient.
L'émission du Synode.
Présentée par Olivier Bonnel de Radio Vatican
et Frédéric Mounier du journal La Croix.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les studios de Radio Vatican, ici à Rome, à quelques jets de pierre de la salle du Synode où se poursuivent les débats sur le thème « Communion et témoignage des chrétiens au Moyen-Orient ». Une émission que j'ai toujours la joie de présenter aux côtés de Frédéric Mounier, le correspondant ici à Rome du journal La Croix.
Bonsoir à tous.
Émission réalisée en partenariat avec l'œuvre d'Orient et j'en profite pour saluer également les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame, des radios qui nous font la gentillesse de retransmettre cette émission dans leur programme. Ce soir, nous vous emmenons dans une région plutôt méconnue. On parle beaucoup de l'Irak, du Liban ou de la Syrie, mais moins de la péninsule arabique. Et c'est le thème de notre émission ce soir. Avec nous, deux invités, Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d'Arabie. Bonsoir Mgr Hinder.
Bonsoir.
Vous siégez à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et votre zone pastorale est la plus étendue du monde, avec plus de 3 millions de kilomètres carrés, si je ne me trompe pas.
C'est juste.
Également avec nous, Mgr Camillo Balin, vicaire apostolique pour le Koweït. Bonsoir Mgr Balin.
Bonsoir.
Et donc nos deux invités qui sont à la tête d'églises un peu particulières, puisqu'à la différence de la Terre Sainte ou de la Turquie, par exemple, vos chrétiens sont des immigrés. Racontez-nous, Mgr Hinder.
Oui, c'est juste. Tous nos chrétiens, tous nos catholiques sont des migrants. C'est-à-dire ils n'ont pas de citoyenneté dans aucun des pays. Ils viennent de préférence des Philippines, la grande majorité, de l'Inde, et pratiquement de tous les pays du monde. Il est clair, il y a aussi des chrétiens de langue arabe qui viennent de ces pays où il y a une minorité de chrétiens de langue arabe, comme du Liban, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak, etc.
Alors, il reste combien de temps en moyenne sur votre territoire?
Bon, cela dépend un peu du statut, je dirais, de leur activité professionnelle. Il y a des simples ouvriers qui ont un contrat pour 3 ans, peut-être pour 6 ans. Il y en a d'autres qui restent pour pratiquement pour leur vie, pour 20 ans, 30 ans. Des fois, il y a même la deuxième génération qui reste s'ils peuvent. Mais ils doivent renouveler, comme tout le monde, le permis de résidence.
Alors, quel service pastoral pouvez-vous faire auprès d'eux, Mgr Hinder?
Bon, ça dépend un peu du pays où nous sommes.
Justement, évidemment. Peut-être pouvez-vous nous rappeler les pays qui sont sous votre vicariat?
Bon, alors, où je réside, il y a les 7 Émirats Unis, avec la capitale Abu Dhabi et les grandes villes comme Dubaï, comme Sharjah. Nous avons 7 paroisses dans les Émirats Unis, et qui fonctionne relativement bien, même si on a, comme partout, pas suffisamment de place. Il y a 4 paroisses en Oman, il y a 4 petites paroisses au Yémen, il y a la réalité que vous connaissez déjà un peu, ou méconnaissez, c'est l'Arabie Saoudite, je n'entre pas dans les détails là. Il y a Bahreïn, avec une grande paroisse du Sacré-Cœur, qui est la plus ancienne du côté Golfe, et ensuite il y a Qatar avec la grande paroisse de Doha, de Notre-Dame de Rosaire, avec la nouvelle église. Ensemble, c'est des estimations évidemment, mais il y a quand même des points de référence assez sûrs. Je compte dans mon vicariat au moins 2,5 millions de catholiques, tous des étrangers.
Et Mgr Balin, alors au Koweït, combien avez-vous de catholiques et à quoi ressemble-t-il?
Oui, les catholiques du Koweït sont environ 350 000. Et parmi ceux-ci, il y a peut-être 40 000 qui appartiennent aux rites orientaux et plus que 300 000 appartiennent aux rites latins. Ils proviennent, comme dans l'autre vicariat, de l'Inde, des Philippines, du Bangladesh, du Sri Lanka, etc. Il y a aussi 5 000 à 6 000 arabes. Et ensuite, il y a quelques centaines d'Européens, mais ceux-ci ne nous fatiguent pas beaucoup, car l'Église n'est pas leur premier choix comme endroit où aller.
Et Alors donc, les chiffres que vous citez l'un et l'autre sont des chiffres très importants. 2,5 millions de catholiques pour l'ensemble de votre zone, Monseigneur Hinder, c'est une réalité qui est tout à fait méconnue aujourd'hui.
Non, effectivement. Même au synode, on ne réalise pas
même
que...
Même parmi vos confrères.
C'est sûr. Effectivement, 50% des catholiques du Moyen-Orient sont dans nos deux vicariats. Et c'est vrai, c'est une réalité volatile et il n'y a pas de stabilité comme dans les autres pays, il n'y a pas de tradition. Mais d'autre part, c'est une réalité très vivante, malgré les difficultés, avec des communautés qui sont impressionnantes.
Impressionnantes de quel point de vue?
Dans leur foi, dans la pratique de leur foi.
Dans la pratique de leur foi. Ce sont des gens qui sont très pratiquants.
Oui. Moi, ceux qu'on rencontre, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup qui ne peuvent pas pratiquer ou qui ne veulent pas pratiquer. Mais surtout ceux qui ne peuvent pas pratiquer car ils sont trop loin de nos lieux de culte.
Ou ils travaillent trop, peut-être, aussi.
Horaire de travail ne le permet pas, ou ils n'ont pas assez d'argent pour payer le transport, etc. Ouais.
Alors, ce jeudi matin, en salle du synode, Monseigneur Hinder, vous êtes revenu sur la liberté religieuse de vos catholiques. On sait que c'est une question qui est largement débattue depuis les débuts de ce synode. La liberté religieuse, c'est une grande question, évidemment, quand on parle de péninsule arabique, d'Arabie saoudite, la terre de l'islam par excellence. Cette liberté dépend du bon vouloir des différents gouvernants. Comment ça se passe avec les différents pays dans lesquels vous...
Ouais, c'est assez juste que ça dépend beaucoup de la bonne volonté, de l'ouverture, de...
Il faut être un diplomate.
Chacun de nous doit être un diplomate. Il faut être prudent et surtout il faut gagner les cœurs et aussi les convictions des autres. Et il est clair que la liberté religieuse, comme on la conçoit dans la Déclaration des droits humains, n'est pas une conception qui correspond à la conviction, par exemple, du monde musulman. Même les pays qui ont signé la Déclaration des droits universels, je pense la plupart, a fait des réservations par rapport à la liberté religieuse, comme un droit individuel de croire ou de ne pas croire ou de changer le credo. Ensuite, il y a quand même la question de la liberté du culte qui existe, mais qui est quand même limitée. Nous sommes limités au terrain qui nous est donné, où nous avons la permission de pratiquer notre foi. Je dirais librement, nous sommes généralement pas contrôlés, contrôlés peut-être, oui, mais on ne dit rien. Mais il y a quand même un pays où il n'y a pas encore cette liberté de culte libre, même pas dans des territoires ou des terrains qui nous seraient donnés. C'est l'Arabie saoudite. Mais d'autre part, il est vrai aussi que dans tous les pays, il y a quand même un certain changement, des tentatives d'ouverture. C'est difficile à dire maintenant où cela va nous mener. Mais je dirais, quand on vit dans une situation comme la nôtre, qui est peu différent d'un pays à l'autre, il faut faire ce qu'on peut dans les limites. Il faut être très prudent. Il ne faut pas faire trop de bruit. C'est pourquoi je suis aussi très réticent quand je dois donner une interview, car je ne veux pas le
ciel. Non, mais vous êtes très précis, Monseigneur.
Je ne veux pas le ciel et les branches.
Peut-être entendu pendant le synode votre confrère archevêque d'Addis Abeba évoquer la situation des émigrés éthiopiens qui, malheureusement, a-t-il expliqué, ne peuvent pas... lorsqu'ils décèdent, notamment en Arabie Saoudite, il faut rapatrier leur corps. Comment vous avez réagi lorsque votre confrère a expliqué ce fait?
C'est une réalité que je connais bien sûr, car ce n'est pas seulement avec ceux de l'Addis Abeba que ça. C'est la réalité qui est. Mais c'est même vrai en partie pour d'autres pays. Il n'y a pas dans tous les pays un cimetière pour les chrétiens. Alors, très souvent, les familles, de toute façon, préfèrent que le corps soit rapatrié. Mais il faut aussi dire qu'en Arabie Saoudite, dans le passé, il y a eu un cimetière, par exemple à Jeddah. Mm-hmm. Bon, c'est des temps récents que ça n'existe plus. Et il est clair que là, il y a encore un chemin à faire. Est-ce que les dialogues interreligieux aussi engagés par du roi de l'Arabie Saoudite va amener à un résultat, on verra. Mais encore une fois, je dis, là, il y a des pas à faire.
Monseigneur Baline, comment ça se passe chez vous au Koweït?
Donc, chez nous, il y a une réalité tout à fait particulière dans le fait qu'il y a des Koweïtiens chrétiens. En 1961, lorsque l'État du Koweït a été établi, ils ont dit à ce moment-là, aujourd'hui ils ne le diraient pas, mais à ce moment-là, ils ont dit, ceux qui sont nés ici de père en fils, je crois, nous les considérons Koweïtiens, quoi qu'ils appartiennent à d'autres religions.
Donc vous avez des baptisés locaux.
Yeah. Mm-hmm. Alors il y a 200 personnes protestantes qui sont Koweïtiennes. Le pasteur évangélique est un Koweïtien. Et il y a 4 petites familles catholiques qui sont Koweïtiennes. Mais l'avenir n'est pas dans ces catholiques locaux, car ils sont trop peu nombreux et ils seront dispersés par l'émigration, par des mariages, par autre chose. Et il faut dire que pour ce qui concerne la pratique religieuse, nous avons un avantage dans nos pays que les autres pays du Moyen-Orient n'ont pas. C'est-à-dire, les gens qui sont chez nous, très souvent, sont seuls. Par exemple, au Koweït, pour avoir la famille, il faut avoir un salaire d'un certain niveau. Mm-hmm. Alors, ceux qui n'ont pas un certain niveau ne peuvent pas apporter leur famille. Mm-hmm. Et ceux-ci sont la majorité des gens. Par exemple, ceux qui travaillent domestiques dans les maisons, nettoyage, des services humbles dans les compagnies, dans les industries, ils ont un salaire assez bas. Donc, ils ne peuvent pas avoir leur famille. Même ceux qui ont leur famille, très souvent, n'ont pas leurs parents, n'ont pas les cousins, n'ont pas les frères, n'ont pas les sœurs. Il y en a de ceux qui les ont, mais beaucoup n'ont pas. Alors, ce sont des gens qui sont seuls. Se sentant seuls, ils sentent mieux, sentent davantage l'appel de Dieu.
Et donc, nous avons la solitude est propice à l'écoute de l'appel de Dieu.
De l'appel de Dieu, oui. Alors, ils trouvent dans l'Église un accueil et social aussi, et ils trouvent aussi un apaisement psychologique et surtout spirituel. C'est-à-dire, ils trouvent en Dieu la compagnie et la consolation qu'ils n'ont pas chez eux, enfin, qu'ils n'ont pas dans leur maison. Et disons que dans les autres pays du Moyen-Orient, c'est différent. Parce que là, ils sont locaux. Par exemple, chez nous, personne ne peut avoir la nationalité du pays. Alors, par exemple, qu'un marmite qui habite l'Égypte, il est égyptien. Parce qu'il est né là-bas, il a un passeport égyptien. Il est considéré égyptien comme tous les autres. Ou bien libanais qui habite en Syrie, ou bien vice-versa. Mmh. Tandis que là, personne ne peut jamais avoir un passeport local. Hein.
Ce jeudi matin, Mgr Baline, vous avez insisté sur l'élan missionnaire. Il nous faut récupérer l'aspect missionnaire de l'Église. Qu'avez-vous voulu dire?
Je veux dire que les Églises orientales ont accueilli plusieurs congrégations missionnaires, surtout dans...
Vous êtes un combonien, vous faites partie d'un ordre missionnaire, justement.
Moi, je suis combonien, oui. J'ai fait 24 ans en Égypte et 10 ans au Soudan. Donc, il faudrait que ces congrégations missionnaires puissent témoigner toujours leur charisme missionnaire. Et donc, être une force pour l'Église et pour les Églises locales, à ne pas se refermer sur elles-mêmes pour suivre leur tradition, tradition vénérée et vénérable, certes. Mais si elles se referment là-bas, ce sont des Églises qui étouffent. Moi, j'ai étudié, par exemple, l'histoire de l'Église au Soudan au début du christianisme et ensuite lorsqu'elle est tombée de nouveau avec la Mahdiya. Ce sont les mêmes causes. Lorsqu'une Église se referme sur elle-même, tôt ou tard, elle est condamnée à s'étouffer.
Très bien. Alors, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de Regards sur le Moyen-Orient avec nos deux invités, Monseigneur Paul Hinder, vicaire apostolique d'Arabie, et Monseigneur Camilo Balin, vicaire apostolique du Koweït. Ce jeudi matin, en salle du synode, il y a eu beaucoup de débats. Notamment, un évêque indien a pris la parole. Vos émigrés, vos catholiques, viennent souvent d'Inde. Et, disait-il, leurs conditions sociales sont souvent très précaires. Ils subissent souvent des discriminations. Et cet évêque, déplorait un peu le fait qu'ils soient abandonnés, laissés un peu livrés à eux-mêmes. Comment l'Église, comment vos églises œuvrent auprès de ces immigrés, Monseigneur Hinder?
Il est vrai que c'est une discussion même entre les évêques, et c'est clair, il y a des différents points de vue. La situation sociale, évidemment, ne dépend pas de l'Église ni des évêques, ce n'est pas dans notre pouvoir. D'ailleurs, des fois, il faudrait questionner les mêmes chrétiens un peu mieux placés, soit dans leur patrie, soit chez nous, qui n'ont pas toujours le souci à l'égard de ceux qui sont moins bien dans leur peau. Maintenant, en ce qui regarde la cure le pastoral de ces fidèles, moi, je refuse catégoriquement, disons, cette accusation, car s'il y a, c'est vrai, mais ça, cela dépend des facteurs qui ne sont pas dépendants de nous. C'est la manque de liberté d'introduire beaucoup plus de prêtres pour le moment. C'est une question de manque de place. Et on est simplement débordé des nombres de fidèles.
Vous êtes débordé.
Oui, car c'est une évolution qui s'est fait, disons, dans le délai de 40 ans, en somme. Et on n'a pas les structures et on n'a pas les moyens pour répondre à 100% à tous les besoins. Et nous, comme pasteurs, nous devons penser aussi un peu au grand nombre qui n'a personne, comme par exemple dans certaines parties de mon vicariat, les Philippins et d'autres.
Alors, une question peut-être plus précise. Une partie de ces fidèles donc viennent d'Inde et notamment appartiennent aux églises Syro-Malabar, Syro-Malankar. Ce sont des églises d'Orient.
Oui.
Vous êtes une église latine. Comment ça se passe? Comment vous les accueillez rituellement? Comment ça fonctionne?
Il y a dans mon vicariat, et c'est la même chose analogiquement au Koweït, il y a 4 prêtres de rite Syro-Malankar pour un nombre relativement petit. Ensuite, il y a une bonne vingtaine de prêtres qui sont du rite Syro-Malabar ou qui ont le droit de célébrer en rite Syro-Malabar, ce qui se fait pratiquement dans toutes les paroisses où c'est possible. Alors, il est clair, on ne peut pas suivre tout le programme, disons, de l'Église à la maison, mais c'est la situation un peu des migrants. Quand on quitte le pays, on ne peut pas attendre qu'on a tout à 100% ce qu'on a eu à la maison. Il y a des choses à améliorer, c'est sûr, mais pour le moment, il nous manque la place, les structures, les personnes.
Alors, nous sommes aujourd'hui presque au milieu du synode, Monseigneur Hinder, Monseigneur Balin. Est-ce que vous êtes satisfait? On dit que les évêques sont contents de se rencontrer, que c'est pas tous les jours que vous avez l'occasion de confronter vos expériences, de partager, d'échanger. Est-ce que vous sentez ça,
Monseigneur Balin?
Monseigneur Balin.
Je vois que c'est la première fois que les évêques du Moyen-Orient se rencontrent. En effet, il y a eu quelques propositions, suggestions que ces rencontres se répètent à un niveau moins officiel.
Et qu'elle se répète sur place.
Sur place.
Voilà, cette proposition est en train de circuler.
Et donc, la première fois, c'est toujours la première fois pour chaque chose. Je ne pense pas que le synode va résoudre tous les problèmes. Je pense qu'il faut avoir un nouvel esprit, avoir une meilleure connaissance les uns des autres, et il faut surtout une conversion de la part de chacun.
Une conversion en quel sens? Une conversion d'où à où?
Conversion d'une fermeture sur nous-mêmes, sur la connaissance de mon troupeau, de m'intéresser de mon église, comment mon église peut survivre, à une ouverture plus large.
Ces églises vous semblent trop fermées sur elles-mêmes?
Mon impression est que chaque église est préoccupée pour son avenir. Alors c'est en se refermant sur elle-même, en se préoccupant d'elle-même, qu'elle va mourir.
Monseigneur Garmou, l'évêque de Téhéran dénonçait le confessionnalisme. Mm-hmm. C'est aussi un peu ce que vous déplorez, Monseigneur Hinder?
Oui, je dirais la même chose. Mm-hmm. Ce que j'attends, c'est ce que je dis à mes prêtres. Si quelqu'un vient à travailler dans le golfe, il doit être le prêtre pour tout le monde, même s'il est à travailler davantage pour une certaine partie de l'Église. Mais chaque prêtre doit avoir cette mentalité, cet esprit ouvert, qu'il prenne chaque catholique comme le sien, le frère ou la sœur dont il doit s'occuper. Et là, j'ai quand même très souvent l'impression que les églises orientales catholiques sont trop orientées seulement de garder leurs ouailles, mm-hmm. de regarder quasiment d'une façon tribale ou ethnique sur les fidèles. Je comprends cela, c'est l'histoire. Mais pour nous, dans la situation dans le Golfe, il faut absolument qu'on garde l'ensemble. Sinon, on crée de nouveaux exclus qui n'appartiennent à personne et on n'en a rien gagné. Qu'on garde les traditions, qu'on prenne soin, oui, et cela, on fait ce qu'on peut. Peut-être dans l'avenir, on peut améliorer. Mais d'autre part, il est aussi vrai que nous avons la responsabilité tous et de garantir qu'ils se sentent à la maison.
Monseigneur Baline, vous vouliez ajouter.
Je voudrais ajouter que ce synode est-il le synode des églises orientales ou bien de l'église catholique qui est au Moyen-Orient?
Et quelle est votre réponse?
Je ne sais pas.
Oui, c'est une interrogation pour vous.
Yeah, parce que si c'est le synode des églises orientales, alors nous sommes dans la division totale.
Oui.
Ce n'est plus l'église catholique. Mais si nous disons que c'est un synode de l'Église catholique au Moyen-Orient, alors il ne faut pas que chaque Église pense seulement à elle-même, à soi-même, à sauver ses fidèles, à prendre des fidèles des autres Églises. C'est une autre mentalité.
L'un des pères synodaux a déclaré il y a quelques jours, face à l'islam, le plus gros scandale est la division des chrétiens. Vous ressentez cela, l'un ou l'autre ?
Oui, bien sûr.
Oui,
que chaque division ou chaque séparation exagérée affaiblit notre présence, c'est clair. Et ce n'est pas par hasard qu'on a comme thème principal du synode communion et témoignage, car s'il n'y a pas de communion profonde et vécue, même le témoignage ne vaut rien. À la fin. Alors là, c'est la grande préoccupation aussi pour nous, travaillant dans le Golfe, que nous voulons vivre cette communion de tous les catholiques, si possible, de tous les chrétiens sur place, en collaboration. Et ainsi, nous pouvons donner un témoignage. Si on tombe de nouveau dans les particularismes, on risque de perdre un atout qu'on a en partie gagné déjà dans le Golfe, à la différence de certains pays du Proche-Orient, car j'ai déjà utilisé le terme libanisation, on ne veut pas cela dans le
Golfe. Vous craignez cela, le confessionnalisme?
Oui, je le crains, oui.
Alors justement, vous avez évoqué l'islam. Comment, vous qui êtes pasteur dans une terre où est né l'islam, comment se passe le dialogue ou les prémices d'un dialogue? Est-ce qu'il y a des intellectuels notamment avec lesquels vous pouvez échanger et avec lesquels les chrétiens peuvent bâtir des ponts? Monseigneur Baline.
Nous avons au Koweït un comité islamo-chrétien qui est une initiative des musulmans chiites, pas de la part d'un parti chrétien. Je suis membre de ce comité, mais il y a aussi le pasteur évangélique, un prêtre copte orthodoxe et un prêtre grec orthodoxe. Il y a 4-5 chiites et 2 sunnites. Nous avons des activités. Par exemple, le mois de décembre prochain, il y aura un forum sur la Vierge Marie. Et chaque année, nous avons le jour de Jérusalem. Alors, l'année passée, on m'a demandé une conférence sur l'histoire de Jérusalem. Cette année, j'étais le président de ce forum. Et, enfin, nous sommes ensemble à travailler. Nous avons visité ensemble le Saint-Siège, le pape. C'est aussi, ils vont en Iran, je ne veux pas aller parce que je suis au synode. Mm-hmm. Il y aura ensuite d'autres visites au Liban et au Caire. Et on essaie de connaître les uns les autres un peu mieux. Ce sont des initiatives très limitées, hein, qui n'ont aucune, pour le moment, aucun effet mm-hmm. sur la société.
Mais ça vous paraît positif ?
Mais c'est un début. Mm-hmm. Pourquoi pas ?
Alors, beaucoup de ceux qui nous écoutent, lorsqu'on évoque le dialogue islamo-chrétien en Europe, les latins, souvent, il y a un mot qui leur vient à la bouche, c'est le mot réciprocité. Dans la situation où vous êtes, Mgr Hunder, Mgr Baline, comment vous réagissez à ce mot-là ?
Bah, à la réalité, disons, à l'exigence de la réalité, je réagis positivement. Mm-hmm. Mais je suis assez réaliste de voir quand on parle en termes différents, quand on parle à un musulman arabe en Arabie Saoudite de la réciprocité, pour à lui, ça ne dit rien, ou pas la même chose qu'à mm-hmm. nous. Bien sûr, moi, j'attends aussi un peu de, disons, des pays occidentaux, des politiciens qui aient le courage de, disons, de parler aussi un peu du problème de la liberté religieuse, de la liberté du culte. J'attends aussi un peu de nos concitoyens mmh. européens mmh. qu'ils restent réalistes par rapport à cela. Mais je ne veux pas que, disons, la liberté religieuse et de culte en Europe soit réduite simplement à cause de notre situation. Je crois que ce ne serait pas la voie juste et ça ne changerait quand même rien. Ce n'est pas en Arabie Saoudite qu'ils vont changer car on ne permet pas une mosquée ici en Europe.
Monsieur Baline.
Oui, je prends un exemple concret. Gaddafi qui vient à Rome et qui annonce l'islam. Et il fait cadeau de Coran à 50 filles, des choses comme ça. Trois filles sont converties à l'islam. Enfin, une conversion subite, moi, je connais seulement celle de Saint-Paul, en tout cas. Mais est-ce que nous avons des politiciens chrétiens en Europe ? Je ne pense pas.
Mm-hmm.
Je ne pense pas. Alors, je ne demande pas que les politiciens soient des missionnaires. Mais puisque nous n'avons pas de politiciens chrétiens, nous ne pouvons pas parler de réciprocité. Il n'y a pas moyen d'introduire ce sujet, car ils sont intéressés seulement à des contrats de travail, contrats d'industrie, enfin, business. Hein. La question du gaz à faire arriver en Europe, elle passe par la Turquie, et donc ils sont là avec cette attitude. C'est tout autre niveau, tout autre domaine. Il n'y a pas de correspondance entre réciprocité comme nous l'entendons et ce qu'eux peuvent faire ou pensent de faire. Jamais ils ne penseront de demander une réciprocité, nos politiciens.
Ce sont des chantiers encore ouverts.
Oui.
Merci à Mgr Hunder et Mgr Baline d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiovaticana.org et sur le site du journal La Croix, la-croix.com. Je ne me suis pas trompé ce soir.
Très bien.
Merci. Demain, nous vous emmènerons au Liban. Bonne soirée. We'll be right back.